VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13 heures à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Belgique, Bruxelles a été secouée ce matin par plusieurs attaques meurtrières, apparemment terroristes, avec des explosions à l'aéroport international et dans le métro de la capitale belge, qui ont fait au moins 26 morts et 130 blessés, selon les médias internationaux. Ces attaques ont déclenché un relèvement de l'alerte antiterroriste à son niveau maximal. Une fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem et une suspension du trafic ferroviaire et du métro. Ces explosions interviennent 4 jours après la capture spectaculaire de Salah Abdeslam, un Français d'origine marocaine, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre à Paris qui avait fait 130 morts. Abdeslam a été appréhendé à Molenbeek, une commune bruxelloise, vendredi dernier. Les mesures de sécurité ont également été renforcées dans les pays voisins de la Belgique, comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. On passe maintenant à l'Afrique. Au Mali, un assaillant tué. Tel est le bilan de l'attaque terroriste contre le quartier général de la mission militaire de l'Union européenne à Bamako. Le raid a été mené par des djihadistes présumés qui ont été repoussés par la garde de la mission. Cette attaque est la deuxième dans le quartier des affaires de la capitale malienne située au cœur de Bamako. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
Hôtel Azalaï Nord-Sud de Bamako, quartier général de la mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali. C'est cette mission chargée de la formation des soldats maliens qui a été attaquée par des assaillants. Ils ont été repoussés par des gardes tchèques de l'EITM. L'un des assaillants a été tué alors que la mission militaire de formation n'a enregistré aucune victime ni blessé. Un autre assaillant de cette attaque s'était retranché dans un bâtiment non loin de l'hôtel qui abrite la mission de formation de l'Union européenne. Ce sont les échanges de tirs entre ces derniers et la garde de l'EITM qui a attiré l'attention de bon nombre de Bamakois. Après un point de la situation très tard dans la nuit, les forces en présence ont commencé des opérations de ratissage dans les alentours de l'hôtel en question. Il faut rappeler que le quartier des affaires de Bamako est à sa deuxième attaque terroriste après celle du 20 novembre 2015 à Radisson Blu qui avait occasionné la mort d'une vingtaine de personnes, dont des étrangers. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et toujours au Mali, le forum de Kidal, qui devait avoir lieu du 27 au 30 mars prochain, a été reporté. Il devait réunir les ex-groupes armés de la CMA et de la plateforme. Mais aux dernières nouvelles, des divergences ont vu le jour. La pomme de discorde, la présence du gouvernement malien à cette rencontre dans la ville de Kidal, qui n'est pas sous le contrôle du pouvoir central de Bamako. Au Niger, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, devrait annoncer ce mardi les résultats du second tour de la présidentielle de dimanche. Hier soir, les observateurs internationaux de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, entre autres, ont encouragé les acteurs politiques nigériens à privilégier le dialogue. Ils se sont aussi félicités du bon déroulement du scrutin. On écoute Mbari Calix Aristide, chef de mission de l'équipe d'observateurs de l'Union africaine.
Bien évidemment, comme toute œuvre humaine, rien n'est parfait. Quelques difficultés ont été relevées, notamment l'ouverture tardive, légèrement, il faut le dire, dans certains bureaux de vote, qui est due au fait que peut-être le matériel a été servi légèrement en retard, je dis dans quelques bureaux de vote, mais également le fait que certains membres du bureau de vote n'étaient pas arrivés à temps pour commencer. Et comme vous avez pu constater, la mission a estimé que ce retard est très très léger, entre 8h et 8h30. L'essentiel, vous savez, étant que la paix et la cohésion sociale soient le leitmotiv, n'est-ce pas, dans ce pays. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les divergences, il faudrait bien que les acteurs nigériens en arrivent, n'est-ce pas, à se parler, à une certaine concertation, parce que l'objectif étant la paix et la concertation pour le bien du Niger et de son peuple.
Mbari Calix Aristide, chef de mission de l'équipe des observateurs de l'Union africaine, propos recueillis par notre envoyé spécial Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Bénin, victoire sans appel de l'homme d'affaires Patrice Talon au second tour de l'élection présidentielle. Selon la commission électorale, il a obtenu 65,39% des voix contre 34,61% pour Lionel Zinzou, le premier ministre sortant. Ce dernier a d'ailleurs appelé son adversaire dès dimanche pour le féliciter. Le dénouement rapide de ce scrutin tranche avec les controverses que suscitent souvent en Afrique les résultats électoraux. Timothée Donangbaye a recueilli l'analyse de Maître Sadiko Alao, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, GERDES Afrique.
Peut-être que du point de vue des résultats, on ne s'attendait pas à ce que l'écart entre les deux candidats soit aussi important, mais que le vaincu accepte sa défaite. C'est quelque chose à quoi il faut s'attendre dans la mesure où nous avons affaire quand même à un premier ministre très bien élevé et qui connaît les bonnes règles de la société démocratique. Donc il ne pouvait pas en être autrement. C'est tout à fait normal que, étant rendu compte qu'il avait perdu les élections, il reconnaisse et félicite rapidement son adversaire. Donc il n'y a rien d'étonnant quand on connaît le personnage, en tout cas du premier ministre, qui est, comme certains le disent, de culture occidentale.
Patrice Talon a été soutenu par la coalition de la rupture. Dans quelle mesure pourra-t-il apporter la rupture au Bénin?
Oh, ben ça, c'est une autre paire de manches. Je crois que c'est à l'exercice qu'on verra s'il y a vraiment rupture. Parce que c'est pour la plupart des gens qui étaient déjà aux affaires. Donc, ce ne serait pas étonnant que la rupture soit plutôt une rupture avec les pratiques de Yahi Boni, qu'une rupture avec les traditions que nous connaissons à notre monde politique.
Quels sont les défis qui attendent le prochain président du Bénin?
Il y a d'abord des problèmes institutionnels, parce que les institutions permettent toutes sortes d'abus, sinon les hommes d'affaires ne se verraient pas au pouvoir. Le Bénin, avec ses institutions, ne connaît pas le renforcement de la gouvernance et surtout, nos institutions sont très fragiles. Je crois que c'est la première chose à corriger. Et puis, le problème le plus sérieux, ça va être les problèmes de développement qui vont se poser parce que le problème du sous-emploi est très important dans le pays et les grands projets qui doivent créer des emplois, il faut trouver les moyens de les réaliser. Ce n'est pas du tout évident avec un peu la configuration que nous avons actuellement. Mais il faudra faire beaucoup d'efforts. On espère que ceux qui ont des relations sur le plan du financement international, comme le premier ministre Zinzou, se mettront à contribution pour faire en sorte qu'au-delà des élections, le Bénin continue de survivre.
Maître Sadiko Alao, président de GERDES Afrique, joint à Cotonou. Actualité américaine maintenant, suite ce mardi de la visite historique du président Barack Obama à Cuba. Au menu de ces entretiens, la normalisation des relations entre les deux pays, les rapports économiques, mais aussi les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Lors d'une conférence de presse conjointe lundi à La Havane, le président Raúl Castro a félicité son homologue américain pour les efforts consentis en vue de rétablir les relations diplomatiques entre leurs deux pays. Il l'a encouragé à faire plus pour que l'embargo américain contre Cuba soit levé.
El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico.
L'embargo reste le plus grand obstacle à notre développement économique et au bien-être du peuple cubain. C'est pourquoi sa levée sera essentielle à la normalisation des relations bilatérales.
Le président cubain a nié l'existence de prisonniers politiques dans son pays. Pour sa part, le président Obama a salué un jour nouveau dans les relations entre Cuba et les États-Unis. Il a promis de continuer d'œuvrer à la levée de l'embargo, mais aussi de parler de l'état des droits de l'homme à Cuba.
Ainsi que nous le faisons partout où nous nous rendons dans le monde, j'ai dit clairement que les États-Unis continueront de s'exprimer au sujet de la démocratie, y compris le droit du peuple cubain de déterminer lui-même son avenir. Je m'exprimerai au sujet des droits universels, y compris la liberté d'expression, la liberté d'association et de religion.
Barack Obama se dit impatient de rencontrer ce mardi les leaders de la société civile cubaine, les jeunes, les milieux d'affaires, de même que les dissidents. Un projet qui, selon la Maison-Blanche, ne plaît pas tellement au gouvernement cubain.
La lutte contre l'impunité, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend jeudi son verdict contre l'ex-leader politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. L'ancien numéro 1 des Serbes bosniaques est accusé des pires atrocités commises en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment de la mort de 1500 enfants tués dans le siège de Sarajevo qui a duré 44 mois. Et pour terminer, en Birmanie, le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, qui n'a pas pu devenir présidente en raison rédaction d'une constitution héritée de la junte militaire devrait entrer au gouvernement selon une annonce faite au Parlement mardi. Elle pourrait devenir ministre des Affaires étrangères. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.